l'engagement de la politique et le point de vue de l'homme. Autrement dit, quelle différence y a-t-il entre le citoyen et l'homme? Question très grave qu'Aristote a posée et qu'il faut poser. Peut-on être un bon citoyen tout en étant un pauvre type au point de vue humain? Et si on est un homme honnête au point de vue vertueux, pouvons-nous être un mauvais citoyen? Ou est-ce que nécessairement l'un et l'autre se tiennent? Alors, chez Platon, hein, pour poser la question. Chez Platon, il n'y a pas d'éthique individuelle.
Ça, c'est
il n'y a pas d'éthique individuelle. L'éthique est nécessairement au niveau communautaire. Parce qu'au point de vue individuel, il y a la contemplation.
Elle est une imitation de la cité.
La cité est une imitation de la contemplation.
Oui, c'est ça. La cité est une imitation de la contemplation. Et puis...
Il n'y a pas de, vertu morale en dehors de la cité. Et en dehors de la cité, il y a la contemplation. Oui.
Ça veut dire qu'ils s'identifient finalement. À la cité, dans la cité, il y a à grande échelle, il y a l'ordre dans la cité. Et bien, à petite échelle, dans la cité de l'homme, il y a une espèce d'ordre qui se fait. Comment?
Les deux tendent à s'identifier.
Mais les deux s'identifient finalement. C'est quand la cité est dans l'ordre que...
C'est le passage que vous prenez dans la République, hein, à propos des vertus de l'âme.
C'est une causalité de la politique sur l'âme,
c'est l'inverse, ou bien c'est simplement... Il y a une causalité de la politique sur l'âme. Autrement, il n'y aurait pas de pain de l'âme. Il n'y aurait pas d'éducation. Et les vertus de l'âme qui donnent l'âme, vous voyez, c'est des vertus en fonction que l'âme est liée au corps. Pas des vertus de l'âme séparées. Vous voyez, la seule vertu de l'âme séparée, c'est la sagesse, c'est la contemplation. Tandis que la vertu de l'âme liée au corps, alors oui, il y a donc un parallélisme, vous voyez, entre la vertu du citoyen et la vertu de l'âme sont les mêmes. Mais la cité permet d'acquérir la vertu. Et c'est en ce sens-là où il y a un certain dû à la cité. Oui. Alors là, ça va très loin. Parce qu'au fond... Non, à la fin de sa vie, il est très différent. Et au fond, les lois mettent... Dans les lois, il est... Vous voyez, d'abord, il n'y a pas du tout la même organisation synthétique des lois. Les lois montrent avant tout le bienfait du législateur et, face au sophisme, montrer que les lois ont un point de vue naturel. Il y a tout un aspect qui est contre, j'allais dire, il est plus contre les sophistes dans les lois que dans la République. Dans la République, il échappe complètement aux sophistes. Et ça ne lui donne pas beaucoup d'inquiétude. Tandis que dans les lois, il est en face d'une réalité qui l'inquiète, c'est les sophistes. Et c'est dans les lois que nous trouvons, par exemple, la première démonstration de l'existence de Dieu. Alors qu'on ne trouve absolument pas dans la République, il y a tout un aspect apologétique dans les lois. Il y a un aspect apologétique de montrer que les valeurs que les sophistes abandonnent, il faut les rétablir. Donc c'est beaucoup plus contre les sophistes de montrer les lois comme il y a un fondement naturel. Mais l'aspect, je vais dire, l'aspect de l'unité profonde que nous trouvons dans la République, le communisme intégral de la République n'existe plus dans l'homme. Il n'est plus affirmé. Non. Il n'y a pas du tout de... Vous voyez, il n'a jamais proposé d'autres formes de gouvernement que Twitter. Il n'a jamais proposé d'autres points de vue que cette unité de la cité. Mais il met un démon. dit-on, c'est vraiment convertir une position. On en discute, ça peut être très difficile. Sous-jacent, on prie des sorties. Voyez, si on regarde par Platon, parce que enfin, tout dépend de Platon, de sa conception de la connaissance. Moi, je crois. Je crois que la conception de la connaissance chez Platon est capitale. C'est ça qui commande tout. Or, cette conception de la connaissance chez Platon, elle n'est pas simple. Ce que vous souvenez tout à l'heure. Au début, c'est la réminiscence. Il semblerait que la réminiscence explique tout. Or, vous voyez avec les banquets qu'il y a Diotime. Diotime, la prêtresse, qui va initier Socrate à ce qu'est l'amour. L'amour est quelque chose de sacré. Il demande d'être initié, et c'est pas la réminiscence. Il n'avait pas de réminiscence pour l'amour. Très connu. Heureusement pour l'amour. La connaissance tolère la réminiscence et pas l'amour. Ça serait très intéressant de voir ça en Platon. Comment se fait-il que la connaissance tolère la réminiscence alors que l'amour ne peut pas? Et l'amour demande une initiation. Alors, qui dit initiation dit quelque chose d'extrinsèque à la réminiscence. Donc si c'est quelque chose d'extrinsèque à la réminiscence, puisque dans la réminiscence on doit tout reprendre de nous-mêmes, si c'est quelque chose d'extrinsèque à la réminiscence, c'est donc une brisure. La réminiscence n'a plus alors son unité absolue. Définitive. Il y a une initiation du côté de l'amour. Et puis alors, troisième point, le parmi, l'autocritique. L'autocritique de parmi. Dans le parmi, c'est son autocritique. Où on se demande si vraiment les idées doivent exister et s'il peut y avoir une participation des idées. Et donc, ça a dû être un moment très critique dans la pensée de Platon. Sous quelle influence? Est-ce que c'est sous l'influence d'Aristote? Sous quelle influence? Le jeune Aristote, on l'a dit évidemment, c'est pas Aristote. Non, c'est lui. Non, c'est lui. Puisque c'est, ça coïncide juste avec la date d'arrivée d'Aristote dans l'Académie. Or, il est le jeune Aristote. Alors, selon tous les historiens, c'est pas Aristote. Hein. Ça, c'est un peu un a priori. Parce que c'est quand même curieux. N'y a-t-il pas eu tout de suite là quelque chose de très net, une espèce d'autocritique en face d'une critique que donne, un jeune Aristote venant d'une perspective philosophique tout autre. Et alors Platon à ce moment-là comprend que Socrate doit être enseigné par Parménide. Donc vous avez deux fuites par rapport à la réminiscence, l'amour et la dialectique. L'amour qui montre la réminiscence ne peut pas aboutir, la réminiscence ne peut pas me donner ce que représente ce qu'est l'amour. Il faut être initié par Diotime pour savoir ce que c'est l'amour. Et deuxièmement, il faut être éduqué par Parménide pour connaître vraiment ce que c'est la vérité. C'est quand même deux aspects qui semble très important pour montrer les limites, voyez, de ce que représente la réminiscence. Et alors, en même temps, parallèlement à ça, dans le Parménide, vous avez le premier moment de l'induction. Il n'y a pas d'induction dans Platon, sauf dans le Parménide. Vous avez une induction qui conduit à la cause exemplaire, qui conduit aux idées. Vous avez une induction, le premier ébauche de l'induction, elle est donnée dans le Parménide, au moment où on a secoué Platon pour dire, mais ce que vous dites, ça ne tient pas. Et donc, s'il y a induction, il y a donc rôle des sensations et l'expérience. Et donc, les sensations reprennent un rôle très important, et troisième brisure par rapport à la connaissance. Vous avez donc trois aspects qui montrent le peuple progressivement Platon était de moins en moins saisi par le point de vue de la réminiscence. Trois points de vue qu'il a. Alors, ce que je dis là au point de vue de la connaissance, je pourrais dire par rapport, vous voyez, à la théoria et à la république. Et à la morale politique. Plus la réminiscence, alors, plus la réminiscence a d'importance, plus l'homme est polarisé par la contemplation. Plus la réminiscence a des ébauches, a des fémurs, plus la réminiscence est battue en brèche, plus la politique prend d'importance. L'importance au plan religieux, disait-il, l'importance au point de vue éducation, et l'importance au point de vue expérience. Oui, alors c'est pour ça que je crois que si on veut étudier le point de vue vraiment de Platon, au point de vue de son évolution, c'est vraiment le problème de la connaissance, une gnoséologie. C'est une gnoséologie qui nous permet de comprendre, c'est d'essayer de comprendre la genèse de la pensée, la genèse de l'idée chez Platon, la genèse de la philosophie chez Platon, qui me permet de comprendre la nécessité du point de vue politique. Et le point de vue politique a pris sûrement, voyez, c'est très curieux, parce que le point de vue politique a pris sûrement de plus en plus d'importance dans Platon, et de plus en plus il était relatif à son système politique. C'était terrible la vie de Platon, c'est pas drôle. Pas drôle du tout, hein. De voir que tout son idéal primitif de jeunesse s'effrite. La jeunesse de Platon a été marquée par la mort de Socrate. Socrate prenant le signe. Ça a marqué Platon à 29 ans. Platon de 30 ans, Platon de pleine force. 28 ans, 29 ans. Ce Platon, pleine force et pleine idéal, la mort de Socrate. Et ensuite, les échecs qu'il a au niveau politique le conduisent progressivement à une vision de plus en plus réaliste. Et par le fait même, voit que la contemplation devient de plus en plus rare et que la politique prend de plus en plus d'importance. Mais une politique qui n'est plus première vision de la politique, est une vision de la politique, la nécessité des lois, l'importance des lois, l'importance de la justice. C'est très curieux.
Il y en a même qui disent que la contemplation a totalement disparu au moment des lois. Il y a même des thèses qui ont été soutenues que voilà, la contemplation n'aurait plus du tout d'importance au moment des lois, enfin, qu'il n'aurait pas abandonné de point de vue de la contemplation. Est-ce que
moi, je ne crois pas qu'il a abandonné, mais je crois qu'il y a des problèmes. Alors, il vole tout le bord. C'est des flots dans l'air. Je ne crois pas qu'il a abandonné complètement. Je ne crois pas. Et je crois que c'est lié à la réminiscence. Vous voyez, la réminiscence vous donne un droit à la contemplation. S'il n'y a plus de réminiscence, il n'y a plus de droit à la contemplation. Alors, s'il n'y a plus de droit à la contemplation, vous êtes livré, hein, et Héraclite prend de plus en plus d'importance.
Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer le passage dans l'ascension du banquet avec Diotime, le passage, j'allais dire, donc il y a une espèce d'échelle avec des gradations, mais il y a un moment, il y a comme un saut.
Il y a une dialectique.
Oui. Alors comment expliquer le passage, saut s'il n'y a pas la réminiscence?
Le passage de la dialectique à la contemplation est nécessairement une bridure. La dialectique par elle-même ne mène pas à la contemplation.
Oui, alors c'est pour ça, comment est-ce qu'on peut expliquer la vision du beau de Platon s'il n'y a pas la réminiscence qui vient comme faire apparaître le beau? Parce que vous voyez, vu qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de passage. Alors il y a un moment, il y a un creux, il y a le saut, puis hop, voilà l'océan du beau. Alors d'où il vient?
Mais parce qu'il est présent. Il est présent dans l'art. Mais pas nécessairement du côté de la réminiscence. Ontologie.
Ouais, ce serait un ontologisme.
Oui. C'est sûr. Il y a une immanence. Il y a une parenté fondamentale. ça, c'est resté toujours chez Platon. Il y a une parenté fondamentale dans l'âme, de l'âme spirituelle avec le Dieu. Vous voyez, on peut peut-être, pour vous aider, émettre quelques questions. Il faut traiter le philosophe pour lui-même. Mais essayez, en conclusion, vous voyez, en conclusion, de répondre à quelques questions pour que on puisse mieux saisir exactement où se situe cette vision de la politique chez ces différents philosophes. De conclusion, sans trop formaliser, parce qu'il ne faut pas trop formaliser, on ne peut pas formaliser Platon, c'est absolument impossible. Dès qu'on le formalise, on le tue. Il faut accepter que Platon, c'est un poète, c'est un artiste, c'est un merveilleux artiste, c'est très étonnant, qui est plein d'intuition, mais qui ne sait pas, qui reste en face de ses intuitions, comme ça. Alors on peut peut-être se poser, mais il y a les questions qu'on se posait tout à l'heure. L'origine, quelle est l'origine de la politique? Quelle est la finalité? Y a-t-il un bien commun? Quelle est la manière de gouverner? Ces différentes questions qui aident, vous voyez, à bien situer. Pourquoi? Oui, c'est sûr. C'est pour ça que c'est là où je dis qu'il y a toujours la contemplation. Je crois que pour Platon, la contemplation reste vraiment la seule fin digne de l'âme spirituelle. Et le moindre mal, c'est parce qu'on est lié au corps, c'est un fait. Oui, c'est le positivisme de Platon, ça, c'est un fait. Vous êtes lié au corps, on ne peut pas nier ça. Vous êtes lié au corps, vous êtes prisonnier du corps, et parce que vous êtes prisonnier du corps, eh bien nécessairement, essayez de mieux vous entendre avec votre voisin. Hein, c'est ce qu'on dirait. Un gens qui serait dans un immeuble, n'est-ce pas, un HLM, on leur dirait, eh bien oui, vous êtes là comme des cages à lapins, eh bien essayez de mieux vous entendre. Hein, parce que si vous faites du bruit jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin, eh bien on ne pourra pas dormir, alors on va faire des petits contrats, vous voyez, le moindre mal, quoi. C'est pas la concordia, c'est pas l'avènement, c'est pas cette... c'est la justice. Et je crois que ça, c'est très vrai, c'est le moindre mal. Mais vous, être uni à mon corps, c'est un mal. Mais autant que possible, il vaut mieux que mon corps ne soit pas trop maltraité, comme moindre mal. Et donc il vaut mieux encore l'aimer, faire une bonne petite politique avec lui, je vois voir que peut-être on puisse s'entendre, pour habiter avec lui, c'est empoisonnant. Alors s'il est de mauvaise humeur, s'il se met à faire du chenille toute la nuit, ça va pas. Alors faisons un petit peu attention, on va cohabiter le mieux possible. Et ce qui est vrai du corps est vrai de la cité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Peut-être annoncer le sujet du jour.
Ce sera le livre 1 de la Pénicale.
Le livre 1 de la Pénicale. Autant que possible, ayez tous lu le livre 1.